Turquie, 23h en temps universel, minuit à Paris, 1h à Ramallah.
Mathis Limano.
Et à la une, l'attente des proches de prisonniers palestiniens en Cisjordanie. Plus de 600 détenus devaient être libérés ce samedi en vertu de la trêve dans la bande de Gaza. Mais Israël retarde leur libération. Le Hamas dénonce une procrastination délibérée. Pour sa part, le mouvement palestinien a relâché 6 nouveaux otages vivants. À suivre, le Liban et les funérailles ce dimanche d'Hassan Nasrallah. Des dizaines de milliers de soutiens convergent déjà vers la capitale libanaise afin de rendre un dernier hommage au chef du Hezbollah tué en novembre dernier. On est à Beyrouth après les titres où des embouteillages monstres se forment. Et puis entre la percée de l'extrême droite et les tentatives d'ingérence étrangère, élections législatives sous haute tension ce dimanche en Allemagne. Au Proche-Orient, c'est un jour sans fin pour les proches des plus de 600 prisonniers palestiniens libérables ce samedi en vertu de l'accord de trêve. Israël retarde leur libération tandis que les 6 nouveaux otages israéliens ont eux bien été relâchés par le Hamas. Le mouvement palestinien dénonce une violation flagrante de l'accord de trêve et accuse le Premier ministre Benjamin Netanyahou de procrastination délibérée. L'attente se poursuit donc à Ramallah, en Cisjordanie occupée, précisément devant le centre culturel de la ville où vous vous trouvez, Pierre-Olivier. C'est là que se sont réunis les proches des prisonniers.
Et il est 1h du matin ici à Ramallah et certaines familles sont arrivées à 5h hier matin. Cela fait donc près de 20h qu'elles attendent la libération d'un proche. Alors pourquoi ce retard? D'abord, Benjamin Netanyahou a convoqué un conseil de sécurité inopiné en début de soirée pour discuter avec ses conseillers de la seconde phase de l'accord de trêve. Tant que cette réunion n'était pas terminée, les prisonniers n'étaient pas libérés. Sauf que la rencontre s'est terminée, mais que les détenus, eux, n'ont toujours pas été libérés. Alors certains ici ne peuvent s'empêcher de penser qu'il s'agit d'une forme de vengeance d'Israël après l'épisode macabre des échanges de corps dans le cercueil de Shiri Bibas il y a 2 jours. Le Hamas, de son côté, dénonce une violation de l'accord de cessez-le-feu puisque les prisonniers devaient être libérés en même temps que les 6 otages israéliens, c'est-à-dire hier, samedi. Ici à Ramallah, néanmoins, les familles autour de moi prennent leur mal en patience en attendant parfois dans le froid ou sous la pluie. Enfin, sachez que seulement une 50aine de prisonniers seront acheminés à Ramallah, 550 à Gaza et une 100aine sera expulsée directement vers l'Égypte car jugée trop dangereux par Israël.
Merci Pierre-Olivier, en direct devant le centre culturel de Ramallah. La trêve entre Israël et le Hamas, très précaire donc, susceptible de dérailler à chaque échange. Ce samedi soir, des médecins légistes israéliens affirment que la mort de la famille Bibas n'a pas été causée par un bombardement, contredisant ainsi la version du Hamas. La trêve également fragile au Liban, des frappes israéliennes encore signalées il y a 72 heures. C'est dans ce contexte que les funérailles d'Hassan Nasrallah, l'ancien leader du Hezbollah, tué dans une frappe israélienne vont se tenir ce dimanche à Beyrouth. Des dizaines de milliers de personnes venant de toute la région sont attendues, responsables politiques et soutiens du mouvement chiite, afin de rendre hommage à celui qui a été le visage du Hezbollah pendant 3 décennies. Laure Stéphan, à la veille des funérailles, l'affluence est déjà très forte.
Des milliers de personnes ont convergé depuis la mi-journée vers le sud de Beyrouth en provenance de l'est et du sud du pays, arborant un drapeau du Hezbollah, portrait de Hassan Nasrallah. La communauté chiite se mobilise pour ses funérailles. C'est un moment pour faire le deuil, alors que certains n'ont longtemps pas voulu croire à la mort de l'ancien chef du Hezbollah. Un moment pour se retrouver après les souffrances de la guerre qui ont principalement visé les zones chiites du Liban. Un moment encore pour afficher une forte représentation alors que les chiites craignent aujourd'hui d'être isolés au Liban et sur le plan régional. Ces funérailles ne rassembleront ni cette seule communauté, ni seulement des Libanais. Des participants sont arrivés ces jours-ci d'Irak, d'Iran, du Koweït ou du Yémen. Dans la banlieue sud de Beyrouth, des lieux de prière ont été ouverts pour héberger ceux qui viennent de loin. Les derniers préparatifs se terminaient aujourd'hui pour la cérémonie qui se déroule à la cité sportive juste à la sortie de Beyrouth. Sur les routes alentours, partout, des posters géants de Hassan Nasrallah et d'autres responsables du Hezbollah tués au cours des derniers mois. Des foules se pressaient aujourd'hui sur le lieu où Hassan Nasrallah sera enterré, demain dans la banlieue sud, ou sur celui où il a été assassiné par Israël lors d'un gigantesque bombardement, un lieu de pèlerinage pour ses partisans depuis la fin de la guerre. Laure Stéphan, Beyrouth, RFI.
Les funérailles d'Hassan Nasrallah, un moment de recueillement mais aussi de mobilisation. Le chef de la diplomatie et le président du Parlement iranien assisteront aux funérailles. Dans le même temps, une cérémonie d'hommage se tiendra dans la principale mosquée de Téhéran et dans plusieurs villes du pays. Donald Trump dit vouloir récupérer l'argent fourni par les États-Unis depuis le début du conflit en Ukraine. Pour cela, il compte bien sceller un accord avec Kiev. On demande des terres rares et du pétrole, n'importe quoi qu'on puisse obtenir, a lancé le président américain à la CPAC, la convention conservatrice. Vive inquiétude autour de l'état de santé du pape. François est dans un état critique. Son pronostic est actuellement réservé, indiquait le Vatican. Le souverain pontife entame à 88 ans sa deuxième semaine d'hospitalisation pour une pneumonie aux deux poumons. Un scrutin sous haute tension en Allemagne, jour d'élection législative ce dimanche, dans un contexte de forte ingérence étrangère venue des États-Unis. D'abord, soutien affiché de l'administration Trump à l'extrême droite allemande, le parti AfD en deuxième position dans les sondages parrainé par Elon Musk. Mais le parti peut aussi se vanter de bénéficier de l'ingérence russe sur les réseaux sociaux. Les campagnes d'influence et de désinformation en provenance de Moscou pullulent. Le collectif de journalistes coréens et l'organisation américaine de lutte contre la désinformation NewsGuard dénonce des manipulations. Shin Labé, rédactrice en chef de NewsGuard.
On a repéré beaucoup de fausses informations autour du scrutin, autour de ces candidats, mais on a aussi repéré une opération de désinformation provenant de la Russie et d'un acteur que nous connaissons bien qui s'appelle John Mark Dugan, qui est un citoyen américain, ancien shérif adjoint de Floride, réfugié en Russie, devenu propagandiste du Kremlin et qui a créé un réseau de 102 sites qui ressemblent à des sites d'information traditionnels allemands, dont certains d'ailleurs portent les noms de médias qui ont existé mais disparu, et qui utilisent l'IA générative pour générer des contenus, pas que des contenus faux, beaucoup de contenus polémiques, clivants, mais aussi pousser des faux récits qui peuvent s'appuyer sur des deepfakes ou sur même des vidéos mettant en scène de faux témoignages d'acteurs qui auraient été payés. Et on a déjà recensé 9 récits faux relayé par cet ensemble de sites qui vise surtout le parti écologiste, donc avec, semble-t-il, un objectif politique assez clair. Beaucoup de contenus sont très positifs sur l'AFD et pro-Russie et anti-Ukraine. Il y a un agenda politique qui est poussé.
Shin Labé avec Sophie Malibaud. C'est dans ce contexte que les 60 millions d'électeurs allemands sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler le Bundestag, la chambre basse allemande qui pourrait davantage se teindre en bleu, la couleur de l'AFD comparée au scrutin de 2021, le parti pourrait doubler son score et talonner de près la CDU de Friedrich Merz, favori à la chancellerie, alors que les sondages prédisent une débâcle pour le chancelier Olaf Scholz et son parti, le SPD. Premier résultat, ce dimanche à 17h, temps universel. Et au lendemain de l'attaque au couteau à Berlin, au mémorial de l'Holocauste, agression à caractère antisémite, cette nouvelle attaque au couteau en France, cette fois à Mulhouse, fichée pour terrorisme et atteint de schizophrénie, selon le ministère de l'Intérieur. Un homme de 37 ans a tué une personne et blessé 2 policiers. L'assaillant est en garde à vue. Le fanatisme a encore frappé et nous sommes en deuil, a réagi le Premier ministre François Bayrou. Une seconde chance pour la sauvegarde de la nature. En novembre, les pays membres de la COP16 biodiversité s'étaient quittés sans réel compromis. Eh bien, elle reprend la semaine prochaine avec l'objectif d'obtenir un accord. En amont de ce nouveau rendez-vous, la présidence colombienne de la COP16 a soumis une nouvelle proposition. Pauline Glaise, que prévoit cette note de travail ?
La présidence colombienne de la COP16 a ébauché une solution médiane. Elle propose une réforme d'ici 2030 des flux financiers pour la sauvegarde de la nature, des flux qui doivent atteindre 200 milliards de dollars par an d'ici 2030. Alors, selon un observateur, le texte ne répond toujours pas à la question de la provenance des fonds, mais il organise un travail multilatéral pour le définir d'ici 2030. Quelques éléments de réponse néanmoins. Le nouveau document prévoit d'améliorer les performances du Fonds mondial pour l'environnement. Il est également envisagé de désigner ou d'établir un ou des instruments mondiaux sur le financement de la protection de la nature et à terme, au moins l'un de ces instruments devrait être placé sous l'autorité de la Convention sur la diversité biologique. C'est une revendication majeure des pays en développement car ils réclament plus d'équité et de transparence dans l'accès au financement. Alors cet objectif peut-il être atteint par la réforme des outils existants ou est-ce que cela poserait les prémices d'un nouveau fonds ? Cette hypothèse braquerait les pays riches. Le dernier texte sur la table à Cali en prévoyait un, mais les grandes puissances y voient une fragmentation de l'aide au développement.
Et les nouvelles négociations de la COP16 biodiversité se tiendront la semaine prochaine en Italie. Et puis Marseille se fait surprendre sur la pelouse du 10e de Ligue 1 Auxerre. Les Olympiens, réduits à 10 en seconde période, se sont fait punir 3-0. RFI, il est minuit 10 à Paris, 23h10 en temps universel.